nationale, sommes-nous désormais contraints de choisir? Et puis à 19h, face à l'actualité agricole, dermatose nodule contagieuse, adoption du Mercosur, une question: notre modèle agricole garantit-il encore notre souveraineté alimentaire? Merci d'être à l'écoute de France Culture, il est 18h. Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir à tous. Les États-Unis s'attaquent désormais aux navires pétroliers qui s'approvisionnent au Venezuela. Les Américains se sont emparés aujourd'hui de deux bateaux dans les Caraïbes et dans l'Atlantique Nord. L'un de ces navires est sous pavillon russe. La classe politique américaine divisée sur les menaces de Donald Trump contre le Groenland. Dans le camp républicain, des élus s'élèvent contre les ambitions militaires du président américain. En France, le gouvernement veut empêcher les agriculteurs de bloquer Paris. La coordination rurale dénonce la possible signature de l'accord européen avec les pays du Mercosur. Le Conseil supérieur de l'éducation rejette massivement l'interdiction des portables au lycée, interdiction que veut mettre en place le gouvernement. Mesure inapplicable, disent les syndicats d'enseignants. Après avoir capturé Nicolas Maduro, les États-Unis de Donald Trump continuent à montrer les muscles. Les Américains s'attaquent maintenant aux pétroliers soupçonnés de s'approvisionner au Venezuela. Ils ont saisi aujourd'hui deux navires, l'un dans les Caraïbes et l'autre dans l'Atlantique Nord, au large de l'Islande. Le blocus du pétrole vénézuélien est en vigueur partout dans le monde, a décrété le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, sur le réseau X. Eric Biegala, dans l'Atlantique Nord, c'est un pétrolier battant pavillon russe qui a été saisi.
C'est manifestement grâce à une nouvelle opération de leurs forces spéciales que les Américains se sont rendus maîtres du Marinera. Le pétrolier, qui s'appelait encore le Bella One, battant pavillon vénézuélien il y a quelques semaines et qui circulait à vide depuis l'Iran, d'où il était parti fin août, et était sur le coup de sanctions américaines, avait fait demi-tour au large des côtes vénézuéliennes le 21 décembre dernier, manifestement bloqué par l'armada américaine ancrée au large du Venezuela. Il avait entrepris de retraverser l'Atlantique, après changement de nom et de pavillon, un pavillon russe, et se dirigeait manifestement vers Saint-Pétersbourg en Baltique ou Mourmansk sur la mer de Barents. La Russie avait prévenu qu'elle enverrait un sous-marin d'attaque pour l'escorter. Apparemment, la menace n'a pas été suivie d'effet ou n'a pas servi à grand-chose. Il faut dire que les Américains ont déployé d'énormes moyens aériens, maritimes et leurs forces spéciales pour appréhender le navire à environ 260 km au sud-est de l'Islande. Des images diffusées par la chaîne russe RT montrent des hélicoptères de type Little Bird, typiques des forces spéciales américaines, flanqués d'hommes en armes et s'approchant du tanker en pleine mer. En l'air, plusieurs avions d'attaque ou de surveillance, ainsi qu'un avion Poséidon de lutte anti-sous-marine, semblent avoir couvert l'opération, de même qu'au moins un appareil de la Royal Air Force. En mer, le navire des gardes-côtes américains USCGC Monroe était également sur la zone. En début d'après-midi, les données satellites indiquaient que le Marinera avait abruptement changé de cap, probablement suite à l'opération américaine. Le tanker fait maintenant cap non plus vers la Russie, mais au sud-sud-est, se dirigeant vers les côtes britanniques.
Eric Biegala, merci. Les prétentions hégémoniques américaines, ce sont aussi les menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland. Plusieurs options sont sur la table pour s'emparer du territoire autonome danois, y compris l'option militaire, a affirmé hier soir la porte-parole de la Maison-Blanche Caroline Leavitt. Une attaque américaine contre un membre de l'OTAN, le Danemark, ce serait la fin de tout, avait averti la première ministre danoise Mette Frederiksen. Nous sommes avec Gwendal Lavina, correspondant aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Gwendal, à Washington aussi, plusieurs responsables politiques dénoncent les menaces de Trump sur le Groenland, y compris dans le camp républicain du locataire de la Maison-Blanche.
Oui, c'est même un mélange de sidération et de colère assez inhabituel qu'expriment publiquement de nombreux élus républicains, à tel point qu'après Marco Rubio, hier, Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants, a tenu à rassurer ses collègues cet après-midi. La Maison-Blanche, affirme-t-il, étudie les canaux diplomatiques et l'option militaire évoquée hier faisait partie de propos généraux. Des républicains montent pourtant au créneau et critiquent le président, dont certains, quelques jours après avoir applaudi l'intervention militaire au Venezuela. Brandir la menace d'une annexion du Groenland est inutilement dangereux, s'insurge Blake Moore, coprésident républicain du groupe des Amis du Danemark. Il rappelle qu'une attaque contre le territoire constituerait tragiquement une attaque contre l'OTAN. Don Bacon, lui, a déjà critiqué Donald Trump par le passé, mais cette fois il évoque, je cite, une idée complètement débile. Menacer un allié ne fait que nous affaiblir, ce qu'adorent la Russie et la Chine, prévient-il. D'autres élus républicains ne savent pas trop comment interpréter les récents propos de Donald Trump. Je ne sais pas à quel point c'est de la fanfaronnade, s'interroge le sénateur Rand Paul, quand l'élu de Louisiane, John Kennedy, explique simplement que le président aime penser à voix haute et énerver les journalistes. Le secrétaire d'État Marco Rubio insiste sur le fait qu'une transaction financière pour l'acquisition du Groenland est la solution privilégiée, une idée rejetée de longue date par le Groenland et le Danemark.
Merci Gwendal Lavina en direct de New York. La réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine a-t-elle vraiment servi à quelque chose ? Hier à Paris, les dirigeants présents avaient évoqué des avancées notables concernant les garanties de sécurité données à Kiev en cas de cessez-le-feu avec la Russie. Changement de ton aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme n'avoir pas reçu de réponse claire de la part de ses alliés européens sur la manière dont il réagirait concrètement en cas de nouvelle attaque russe contre l'Ukraine après la fin de la guerre. Virginie Pironon.
Oui, interrogé alors qu'il était en déplacement aujourd'hui à Chypre, pays qui prend pour 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne, le président ukrainien a donc fait part de ses doutes quant au plan des Européens si la Russie, en cas de cessez-le-feu, attaquait à nouveau l'Ukraine.
C'est une question très complexe à laquelle je souhaite personnellement obtenir une réponse très simple. Oui, en cas de nouvelle agression, tous les partenaires réagiront fermement face aux Russes. C'est exactement la question que j'ai posée à tous nos partenaires et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse claire et sans équivoque.
Hier, au sommet de Paris, le président ukrainien avait pourtant salué un plan concret sur les garanties de sécurité et pas qu'une simple déclaration, saluant, je cite, « un signal fort de la part des pays européens pour travailler sur la sécurité globale ». Alors que les discussions entre les délégations ukrainiennes et américaines se sont poursuivies aujourd'hui, Volodymyr Zelensky l'a rappelé à plusieurs reprises, en cas de cessez-le-feu, il serait capital pour l'Ukraine d'être protégée d'une nouvelle agression de la part de Moscou. Ce qui est appelé le backstop américain doit être la priorité. Les garanties de sécurité apportées à l'Ukraine doivent être fondées sur des obligations juridiques, affirme Volodymyr Zelensky, approuvées par le Congrès américain.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. La Syrie n'en a pas fini avec la violence malgré les promesses du nouveau pouvoir du président al-Sharrah. Des affrontements ont éclaté hier entre les forces kurdes et les soldats du régime à Alep, la deuxième ville du pays. Les troupes gouvernementales veulent reprendre le contrôle des deux quartiers tenus par les FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. Les négociations pour leur intégration au sein de l'armée nationale patinent, résultat des combats sporadiques qui ont déjà fait plusieurs morts civiles depuis la fin décembre. On fait le point avec notre correspondante dans la région, Marie-Pierre Véraud.
Les images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des cohortes d'habitants quittant les deux quartiers d'Ashrafieh et de Shermassoud à Alep, tenus par les forces kurdes et déclarés cibles militaires par l'armée syrienne. Plusieurs dizaines de milliers de Syriens qui ont fui les combats par des corridors humanitaires, ils avaient jusqu'à 15 heures, heure locale, avant que l'armée ne commence à bombarder les positions des FDS. Les tirs résonnent de nouveau à Alep. L'objectif affiché de Damas est de reprendre le contrôle de l'axe principal qui coupe ces quartiers en deux et ouvre l'accès au reste de la province. Les autorités syriennes qui accusent les FDS d'utiliser ces quartiers comme des poches de déstabilisation. Les affrontements sporadiques avaient repris il y a 2 jours, faisant au moins 9 morts, chacun imputant à l'autre la responsabilité de l'escalade. Pour l'heure, les affrontements sont limités à Alep, mais nul ne peut exclure un conflit de plus grande ampleur. Ce n'est a priori pas la volonté du gouvernement de Damas, conscient des faiblesses de son armée. Le constat que les FDS et les autorités syriennes ne peuvent se partager une ville augure mal d'une collaboration pour l'ensemble du pays.
En France, le gouvernement met en garde les agriculteurs en colère. On peut manifester, mais on ne peut pas bloquer Paris, déclarait ce matin la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. Message adressé au convoi de la coordination rurale qui roule actuellement vers la capitale pour une manifestation prévue entre jeudi et vendredi. Annie Genevard qui s'engage à défendre les intérêts des agriculteurs, même si l'accord avec les pays du Mercosur devait être signé. Et le Premier ministre Sébastien Lecornu promet des réponses concrètes vendredi. Insuffisant pour dissuader la trentaine d'agriculteurs de la coordination rurale partie de Dordogne lundi. Ils sont aujourd'hui à 100 kilomètres de Paris. C'est un reportage de Thibaut Delmarle, ici Périgord.
Deux jeunes agriculteurs du convoi réparent les tracteurs, éprouvés par les 500 kilomètres parcourus sur la route, bien souvent enneigée. Ils ont entendu la ministre ce matin. Ils sont fatigués physiquement et moralement, mais pas question de faire demi-tour. Mathis a 20 ans, il est éleveur dans le Périgord vert.
Je ne compte pas faire marche arrière après tous les kilomètres que j'ai fait. Si on a fait ça aujourd'hui, tous ensemble, ce n'est pas pour repartir la queue entre les jambes. Hein. Ce n'est pas pour amuser la galerie qu'on est là. Aujourd'hui, c'est des choses concrètes qu'on attend.
Il s'affaire avec un collègue qui est installé à quelques kilomètres de chez lui dans le Périgord, Guillaume, 26 ans, qui veut des garanties et pas des paroles de la part du gouvernement.
On veut quelque chose d'écrit. Et tant qu'on n'aura pas des choses écrites, signées, actées, on ne bougera pas. Rien ne nous fera renoncer. On ira jusqu'au bout. On est révoltés. Aujourd'hui, on crève. On crève. Tous autant qu'on est. Tous, on crève. Et on va tous y passer. On est déterminés. Et on ira jusqu'au bout.
Dans cette ferme à une centaine de kilomètres de Paris, ils attendent encore d'autres délégations de la coordination rurale. Ils vont reprendre la route ce soir avec un itinéraire secret pour rejoindre le périphérique parisien dans les prochaines heures avec leurs tracteurs et les grands drapeaux jaunes accrochés à leur cabine.
Et pendant ce temps-là, à Bruxelles, les ministres européens de l'agriculture sont réunis pour préparer la signature de cet accord commercial avec les pays latino-américains du Mercosur. Accord que conteste pour l'instant la France, mais Paris semble sur le point de perdre le soutien de l'Italie. C'est l'une des dernières réformes majeures d'Emmanuel Macron, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et des téléphones portables au lycée. Un projet de loi avec deux articles qui doit être débattu dans les prochaines semaines au Parlement. Mais dès aujourd'hui, le deuxième volet du texte, le bannissement des smartphones au lycée, a été soumis pour consultation au Conseil supérieur de l'éducation, où siègent notamment les syndicats enseignants. Et le Conseil, Hakim Kasmi, s'est prononcé quasiment à l'unanimité contre cette interdiction.
Avec 60 voix contre, 4 pour et 7 abstentions, les syndicats ont rejeté massivement le texte contre l'interdiction des téléphones portables au lycée. Une mesure qu'estime inapplicable Olivier Beaufrère, secrétaire national du SNPDEN, le principal syndicat des chefs d'établissement.
Nos établissements sont vastes, on a un très grand nombre d'élèves, on a effectivement des lycéens, des étudiants, on a également des apprentis. Donc voilà, on a toute une population qui fonctionne. Un lycée, ça peut être un jeune de 14 ans et puis un jeune de 22 ans. Donc on est déjà habitué à ce que ces jeunes fonctionnent ensemble. Maintenant, dire à certains, vous ne pouvez pas utiliser vos portables et dire aux autres, bah vous avez une forme de majorité, vous pouvez les utiliser. Ça nous semble être effectivement compliqué et puis irréalisable parce qu'on pourra pas mettre un nombre d'adultes important pour vérifier.
De son côté, Sophie Venetite, la secrétaire générale du SNES FSU, qui parle d'une mesure précipitée, dénonce également une opération de communication de la part d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Éducation, Édouard Geffray.
On pourrait réfléchir à une utilisation raisonnée du numérique, à avoir des espaces sans écran au sein des lycées. Tout ça n'a jamais été évoqué. Il y a quand même un paradoxe à voir aujourd'hui le ministère se réveiller sur la question du téléphone portable après avoir promu pendant des années l'utilisation et la surutilisation du numérique dans les établissements scolaires.
En attendant, le Conseil d'État doit rendre son avis sur le texte demain. Quant au gouvernement, il espère une adoption au Parlement d'ici le printemps.
Explication signée Hakim Kasmi. Nous, les Républicains, on veut que le travail paye. Voilà comment le patron de LR, Bruno Retailleau, a résumé ce matin son programme économique baptisé « Travail gagnant ». L'ancien ministre de l'Intérieur veut restituer 30 milliards d'euros aux salariés et aux entreprises en contrepartie d'un effort qu'il qualifie d'utile. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Avec ce programme économique, Bruno Retailleau montre qu'il a toujours des ambitions pour la prochaine élection présidentielle, malgré son départ non maîtrisé du gouvernement en septembre dernier.
C'était la première d'une série de conférences de presse programmatiques qu'a donné ce matin Bruno Retailleau depuis le siège du parti Les Républicains. D'autres suivront dans les semaines à venir. Il a dressé le constat d'une France qui se déclasse et s'appauvrit et dénoncé un modèle qu'il a qualifié de « social-étatique à bout de souffle ».
Ce modèle qui est à bout de souffle, c'est un modèle qui a reposé sur deux grands mensonges. La dévalorisation du travail, travaillez moins et vous vivrez mieux. La retraite à 60 ans, les 35 heures. Et l'autre mensonge, c'est l'assuétude à la dépense publique, l'addiction pour faire plus simple. Désormais, la fête est finie. Le pouvoir d'achat ne pourra plus venir de la dépense publique, de l'argent de l'État. Il ne pourra venir que de la création de richesses. du travail.
Et pour ça, Bruno Retailleau veut inciter les Français à travailler plus, en exonérant par exemple les salariés et les entreprises de cotisations sur les heures supplémentaires, ou encore en favorisant le cumul emploi-retraite, permettant aux retraités de cumuler une partie de leur pension en plus d'un salaire qu'ils percevraient en travaillant. Avec cette thématique et ses propositions, l'ancien ministre de l'Intérieur veut passer à autre chose, faire oublier son départ raté du gouvernement en septembre dernier et commencer à bâtir un projet présidentiel.
J'ai été, je pense, très très identifié sur les sujets régaliens et les questions sécurité, les questions immigration me collent à la peau. Celles et ceux qui me connaissent savent que pour moi l'économie est un peu ma langue maternelle. Première chose. Deuxième chose, moi je pense qu'on est comme en 58. Le général de Gaulle en 58, quand il arrive, avant de déployer sa politique de souveraineté, d'indépendance nationale, il va reconstruire économiquement le pays.
L'économie est aussi une thématique sur laquelle les Républicains s'estiment plus crédibles que le Rassemblement National. Le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, avec lequel Bruno Retailleau refuse de faire alliance, mais dont il prétend récupérer une partie des électeurs.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. Des responsables politiques, il y en avait très peu aujourd'hui à Saint-Tropez pour les obsèques de Brigitte Bardot, disparue le 28 décembre dernier, trois tout au plus. Marine Le Pen pour le Rassemblement National, Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes pour le gouvernement, et le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Un millier de personnes ont suivi la cérémonie sur des écrans géants installés sur le port et dans le centre. Cérémonie discrète, la famille de Brigitte Bardot avait refusé un hommage national. Le reportage à Saint-Tropez de Mathilde Vinceneux.
On ne voulait pas d'une cérémonie politique, a lancé la maire d'hiver droite de Saint-Tropez, Sylvie Siri. Brigitte Bardot a été enterrée sans chichi, dans l'intimité, et si la députée RN Marine Le Pen était présente, elle s'est fait discrète, elle s'est contentée de quelques mots d'hommage avant d'entrer dans l'église.
Une femme gigantesque, la liberté, l'impertinence, la franchise, l'engagement, les convictions, puis le sacrifice quand même. Sacrifice qu'elle a fait pour une cause.
Brigitte Bardot est celle qui a le plus tôt en France et dans le monde éveillé les consciences quant au bien-être animal, a salué pour sa part Aurore Berger. La ministre était la seule membre du gouvernement invitée à la messe par la fondation Brigitte Bardot. Et pour les fans qui sont venus dire au revoir à l'icône, c'est de cet engagement dont il faut se souvenir, comme l'expliquent Didier et Patricia.
Une défenseuse courageuse et acharnée de la cause animale. C'est surtout ça qu'on veut retenir d'elle.
Et j'espère que ce qu'elle souhaitait pourra se concrétiser, à savoir la suppression de la chasse à courre. Ce serait légitime par rapport à tout ce qu'elle a fait.
Le combat de Brigitte Bardot pour les animaux doit continuer, martèlent ceux qui sont venus lui rendre hommage. Beaucoup sont d'ailleurs venus à Saint-Tropez en compagnie de leurs chiens.
Brigitte Bardot qui repose désormais dans le cimetière marin du petit port varois qui elle a donné une renommée mondiale. Première Lune, c'est le titre d'un documentaire qui sort aujourd'hui au cinéma. Un film où cinq jeunes femmes à travers le monde racontent leurs premières règles. Elles sont françaises de métropole et de la Réunion, québécoises, rwandaises et sénégalaises. Réalisé par Mélanie Mello, le documentaire aborde les rituels et la relation mère-fille pendant cette période cruciale du passage de l'enfance à l'adolescence. Autoproduit et autofinancé, il lève aussi le silence et le tabou qui entourent les règles dans notre société. Romane Salge.
Que ce soit dans la campagne rurale rwandaise ou au Québec, la transmission entre grand-mère, mère et fille est au cœur de ce film.
Prends ce trésor, ma fille. Il est à nous toutes. Ton sang n'est pas honte.
Mélanie Mello, réalisatrice du documentaire Première Lune.
Et c'est un passage durant lequel on entend toujours les mêmes phrases quand on est jeune fille, comme « tu vas devenir une femme maintenant, on ne sait pas trop quoi faire avec ça quand on est jeune fille ». C'est pour mettre vraiment de la conscience sur la nécessité d'avoir du temps pour s'approprier ce passage. C'est le but du film, d'amener ça.
Des témoignages compliqués à trouver pour le tournage.
Ça a été vraiment plus difficile de trouver des gens autour de moi qui acceptaient de parler des menstruations, plutôt que de trouver des personnes qui acceptaient que je filme, par exemple, un accouchement. Pour les jeunes filles, c'était plus évident que pour les mères et les grand-mères.
Les règles considérées comme dégoûtantes, ce tabou subsiste alors à travers les générations, selon Élise Thiébaud, journaliste et autrice de plusieurs ouvrages autour des menstruations, comme « Ceci est mon sang ».
Il y a beaucoup de peurs qui entourent la question des menstruations, la peur des douleurs, la peur de la honte. Ce sont des peurs transmises par les générations précédentes. Les mères, les grand-mères qui, elles, ont vécu dans un tabou beaucoup plus fort que ce qui existe aujourd'hui. Et quand quelque chose nous est transmis dans la peur ou la honte, il est très difficile de s'en libérer. Ça demande un travail psychique et social important.
Malgré certains progrès, comme le remplacement du liquide bleu en rouge dans les publicités pour protection périodique, une Européenne sur deux considère les règles comme un sujet tabou, selon un sondage mené par OpinionWay, datant de 2025.
On termine ce journal avec un mot du temps. Ce soir et demain, toujours dominé par la neige, même si le redoux arrive par l'ouest, 14 départements restent en vigilance orange, neige et verglas, du nord de l'Occitanie aux Ardennes. Deux autres départements passent à l'orange, les Deux-Savoie, en raison des chutes de neige conséquentes sur les Alpes. Enfin, vigilance orange pour vent violent pour quatre départements normands, le Calvados, l'Eure, la Manche et la Seine-Maritime. Les températures remontent entre moins 2 et 10 degrés pour les minimales. L'après-midi, il fera entre 6 et 16 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck, à la technique Alexandre Dang. 18h20 sur France Culture. Je vous laisse en compagnie de Quentin Lafay pour les questions du soir.
Merci beaucoup Stanislas et bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans Questions du soir, un début de soirée consacré à l'actualité, aux idées et aux découvertes. Et à 19h, face à l'actualité agricole, dermatose, nodulaire, contagieuse, adoption du Mercosur, une question: notre modèle agricole garantit-il encore notre souveraineté alimentaire? On en parlera avec Eve Fouilleux. Elle est directrice de recherche au CNRS en sciences politique et chercheuse associée au CIRAD. Mais pour l'heure, place au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
L'enlèvement par l'armée américaine de Nicolas Maduro, les menaces d'annexion du Groenland par la force mettent à jour une ligne de fracture qui scinde en deux les pays occidentaux, les camps politiques, les partis, les opinions. D'un côté, les tenants de la realpolitik pour qui, face au désordre du monde, la puissance est désormais nécessaire, inévitable et supplante le droit. De l'autre, les partisans d'une diplomatie plus classique, soucieuse du respect du droit international, de la négociation, de la diplomatie également. Alors, la logique de puissance peut-elle remplacer le droit international? En capturant Nicolas Maduro, Donald Trump a-t-il signé l'arrêt de mort de l'ONU et du droit international? La diplomatie telle que pensée par les Européens a-t-elle vécu? Et la logique de puissance peut-elle conduire à autre chose qu'à la guerre elle-même? Deux invités pour en discuter et en débattre ce soir. Claude Blanche-Maison, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ex-ambassadeur de France en Inde et en Russie, auteur du livre intitulé « Fragments d'un parcours aventureux », un ouvrage qui a paru aux éditions Temporis. Face à vous, Cyril Brett, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir. Et un mot d'explication avant d'entamer cette discussion, ce débat, Cyril Brett. En quoi l'intervention américaine au Venezuela est-elle illégale, illicite du point de vue du droit international?
Si on se réfère à la charte de l'Organisation des Nations Unies, d'abord la violence armée est prohibée sauf dans certaines exceptions, la légitime défense, l'appel d'un gouvernement et à l'aide armée, et les autorités américaines n'ont jamais placé leur intervention militaire et encore moins l'enlèvement du chef de l'État légal, à défaut d'être légitime, sous l'égide d'une de ces exceptions de la Charte des Nations Unies. Donc, oui, l'action est évidemment en violation flagrante avec cette règle du jeu international de la Charte des Nations Unies.
Claude Blanche-Maison, la lutte contre le narcotrafic ne justifie pas, du point de vue du droit international, là encore, une telle intervention?
Oui, alors évidemment, cette action est illégale vis-à-vis du droit international, puisque le Venezuela est un État reconnu par les Nations Unies, qui fait partie des Nations Unies. Par conséquent, son chef doit effectivement bénéficier d'une sorte de à la fois d'intouchabilité. Mais ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont profilé leur intervention en s'appuyant sur une incrimination de trafic de drogue qu'ils ont pris la précaution de qualifier de narco-trafic.
Et narco-terrorisme.
Et narco-terrorisme, qui est une invention, en effet, c'est un terme assez ingénieux, parce que s'il y a terrorisme, effectivement, il y a possibilité d'intervenir. Et comme il y a, en effet, un tribunal américain qui poursuivait Maduro et sa femme, eh bien, effectivement, Donald Trump et son équipe ont pensé qu'ils pouvaient faire une opération bien profilée, en utilisant, bien entendu, les forces combinées de divers éléments de militaires, mais en faisant arrêter par des gens de la Drug, Food and Drug Administration Maduro et sa femme, en lui signifiant qu'il était arrêté en fonction d'une injonction d'un tribunal américain.
Lorsque vous dites, pardonnez-moi, que le terme de narcoterrorisme a permis aux États-Unis d'intervenir au Venezuela, cela signifie que cela leur aurait permis, du point de vue du droit, ou simplement politiquement vis-à-vis de leur opinion publique et vis-à-vis de l'opinion publique internationale?
C'est l'habillage que l'équipe de Donald Trump a trouvé pour justifier
politique, donc,
cette intervention. Et en effet, ça n'est pas une intervention de regime change, comme faisaient les néoconservateurs, les néocons américains habituels. D'ailleurs, on n'a pas mis à bas le régime. On a isolé le problème de Maduro et de son épouse. Et on l'a arrêté, exfiltré et emmené devant le tribunal qui va le juger.
Cyril Brett.
Oui, la norme qui s'est appliquée selon la conférence de presse du président Trump, c'est une norme de droit criminel américain transposé à un autre territoire, à un ressortissant d'un autre pays souverain, et même à un chef d'État qui devrait bénéficier des immunités internationales, immunités d'ailleurs garanties par un traité auquel les États-Unis sont partis.
Donc, c'est un circuit juridique fort alambiqué ?
Oui, on peut dire qu'il est inexistant en fait.
Mm-hmm. Je voudrais vous faire entendre la voix du président de la République française. Il s'exprimait en 2018 et soutenait avec verve le droit international.
Nous sommes en train aujourd'hui de voir se déliter ce droit international, toutes les formes de coopération, comme si de rien n'était, par peur, par complicité, parce que ça fait bien. Non ! Moi, je ne m'y résous pas. Alors je vous le dis très clairement. Le siècle qui s'ouvre nous regarde et nos enfants nous attendent. Réglons les crises, œuvrons ensemble à lutter contre toutes ces inégalités, mais faisons-le à hauteur d'homme et avec l'exigence de nos principes, de nos histoires, avec notre universalisme chevillé au corps.
On était là en 2018, le week-end dernier en revanche, dans la foulée de la capture de Maduro par les États-Unis. Le président français a expliqué sur les réseaux sociaux avoir pris acte de la fin de la dictature Maduro. Emmanuel Macron a exprimé sur X son soutien à une transition, je cite, pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien, sans mentionner le droit international, sans évoquer le fait que ce droit a été bafoué. Alors une question, Claude Blanche-Maison, a-t-on à ce point changé d'époque ?
Non, je crois que le président de la République était à la veille d'une réunion importante, qu'il allait présider, voire co-présider avec le Premier ministre britannique, la coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine, et qu'il a estimé, c'est son jugement, qu'il valait mieux qu'il ne prononce pas des mots qui antagoniseraient, qui provoqueraient la colère chez M. Trump, qui avait promis d'envoyer ses deux représentants à cette réunion. Il l'a fait, M. Witkoff et son gendre, Monsieur Kouchner, et il aurait pu en effet les empêcher d'aller à cette réunion, de participer à cette réunion de façon positive. Et ça, pour Monsieur Macron, c'était très important de garder les États-Unis à bord dans l'affaire ukrainienne.
C'est ça le rationnel, Cyril Brett, c'est ne pas, vexer Donald Trump en vue d'une réunion importante le lendemain, plutôt que défendre des valeurs que l'on pourrait considérer comme immuables à travers les années et indépendamment du contexte.
Oui, ça c'est la décision conjoncturelle, je pense qu'elle est largement bien établie. Puis il y a la décision plus structurelle qui est d'appliquer aux événements au Venezuela, non pas un critère de jugement juridique ou diplomatique, mais un critère de jugement démocratique et politique. Et Emmanuel Macron...
Moral, donc.
Et donc, moral. Et Emmanuel Macron a joué... subtilement, mais à mon avis sans grand résultat, des critères politiques au détriment des critères juridiques, alors même qu'il a endossé... à juste titre avec ses collègues européens, l'habit et le rôle délaissé par les États-Unis de défenseur de la légalité internationale. Ce principe est indispensable si on veut pouvoir répondre à la Russie en Ukraine et si on veut prévenir d'autres actions qui seraient prédatrices, impérialistes, irrédentistes ou violentes à travers le monde. Et je pense qu'on évoquera les différents cas qui se présentent, Groenland, Panama, Taïwan.
Comment est-ce que vous comprenez ce clivage qui est en train de se dessiner, qui va bien au-delà d'ailleurs des clivages politiques traditionnels, Claude Blanche-Maison, les clivages gauche-droite, mais qu'on voit surgir au sein même des partis, au sein de l'opinion publique, un clivage qui se dessine entre, d'un côté, les légalistes multilatéralistes, ces idéalistes, comme les appelait Raymond Aron, qui défendent mordicus le droit international d'un côté, et les tenants du réalisme politique, qui sont peut-être plus enclins à cet usage de la puissance, de la force.
Alors vous avez raison, il y a des gens qui tiennent mordicus au respect du droit international, et dans le fond, moi j'ai été élevé dans cet esprit. Et pendant 40 ans, j'ai été un diplomate, en effet, qui appliquait le droit international et qui travaillait aussi dans les organisations internationales chargées de fabriquer du droit international, notamment l'Union européenne. Là, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, effectivement, Emmanuel Macron, d'ailleurs, a fait dire par le porte-parole du gouvernement qu'au Conseil des ministres, il avait désapprouvé la méthode américaine. Donc il a changé un peu de ton.
Il a amendé effectivement le surlendemain.
Il a amendé sa position parce qu'il s'est bien aperçu qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il y avait une très grande majorité d'États membres qui critiquaient l'atteinte au droit international, parce que ça, évidemment, ça crée un précédent absolument redoutable pour ce que veut faire M. Trump et qu'il a annoncé et qu'il essaiera de faire, mais aussi pour ce que font d'autres. Parce qu'en réalité, il y a d'autres prédateurs. Il y a le prédateur en chef qui est évidemment M. Poutine, qui envahit avec son armée un État dont il avait reconnu les frontières et qui veut, en effet, éliminer son chef, le président, régulièrement élu. Par conséquent, effectivement, c'est un précédent redoutable que beaucoup de gens peuvent appliquer, que les Chinois ultérieurement peuvent aussi appliquer en mer de Chine du Sud ou vis-à-vis de Taïwan. Par conséquent, les Danois pensent toujours au Groenland.
Mais j'en reviens tout de même un instant, car vous ne m'avez pas répondu là-dessus, sur ce clivage qui se dessine entre légalistes d'un côté, réalistes de l'autre. Vous nous disiez que vous aviez été formé à cette matière, le droit international, à travers l'exercice de votre profession, ambassadeur même, notamment, diplomate entre autres. Est-ce que...
Il faut quand même modérer peut-être ce que je modère moi-même ce que j'ai dit et affirmé, c'est que le droit international que nous appliquions tenait compte des rapports de force. Évidemment, il n'était pas totalement étranger, et ce n'était pas totalement un droit international idéaliste, mais il était convenu que pour réduire les conflits, il fallait appliquer le droit international. Or, effectivement, là, on s'aperçoit que un certain nombre de pays ou de chefs d'État devenus prédateurs, considèrent que c'est le rapport de force qui doit prévaloir par rapport au droit international. C'est le cas de M. Poutine, c'est le cas de M. Trump, ce sera le cas de M. Xi Jinping.
Cyril Brett, sur ce clivage.
Oui, il est aussi ancien que la philosophie politique, puisque c'est celui qui met aux prises Socrate et Calliclès dans le Gorgias. Les relations internationales se situent exactement au milieu. Ça n'est ni que de la norme. Les relations internationales ne sont pas régies par un code pénal, une constitution, un code civil, un code de procédure pénale. Mais les relations internationales ne sont jamais privées de la référence au droit. Tout simplement parce qu'un conquérant qui réussit veut solidifier sa victoire dans un traité, donc il a besoin du droit. Et un vainqueur qui n'est pas satisfait du résultat veut cranter les résultats qu'il a déjà obtenus, empocher ses gains, solidifier et reconstituer ses forces. On est dans une réalité impure où le droit n'est pas exclu, et on peut même estimer que l'approche trumpienne des relations internationales est une approche qui combine force et droit, mais dans un ordre différent. Dans l'ordre préalable au trumpisme, c'est le droit qui est un préalable, et si les solutions du droit ne sont pas satisfaisantes, eh bien on recourt à la force armée. Là, c'est le contraire.
Mais ça, pardonnez-moi, dans ce sens-là, dans l'ordre que vous décrivez, tel que Donald Trump le pense, l'imagine, le conçoit, est-ce que ça ne vient pas, rendre le droit international, le droit tout court, absolument inutile, s'en servir uniquement lorsqu'il nous arrange ?
Non, il est toujours instrumental dans les relations internationales. Les traités de paix, les chartes, les conventions reflètent un état des forces. Et même la charte des Nations Unies par l'invocation de laquelle nous avons heureusement commencé, des rapports de force se sont solidifiés. Regardez la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ne reflète plus les rapports de force stratégiques actuels. Regardez les règles de fonctionnement des organisations spécialisées des Nations Unies, elles aussi reflètent des rapports de force. Les rapports de force transforment le droit retarde ou accélère les rapports de force, et aujourd'hui, la négociation, la production, l'évolution du droit international est un enjeu de conflictualité. Il ne faut pas considérer que c'est binaire, blanc ou noir, c'est droit et force.
Donc rien de nouveau sous le soleil, il n'y a pas un nouvel équilibre qui est en train de se dessiner avec ces prédateurs qu'évoquait Claude Blanche-Maison, Cyril Brett.
Moi je considère que c'est l'ordre de la violence et du droit qui est inversé. La violence sert de base de négociation à Donald Trump, c'est ça la nouveauté de sa technique. Ça n'est pas le droit existant qui lui sert de prétexte pour déclencher des opérations de puissance. Rien de nouveau sous le soleil, non, mais ça n'est pas non plus une révolution complète.
Claude Blanche-Maison.
Je crois qu'on est dans un monde en mouvement rapide, y compris sur le plan de la politique intérieure. Vous aviez évoqué tout à l'heure dans votre question précédente ce point, et on a vu, en effet, à la surprise un peu de tout le monde, des porte-paroles du Front National dire « Mais c'est scandaleux que les Américains fassent cela au chef de l'État du Venezuela ». Et effectivement, pour des raisons largement de politique intérieure, le Front National a estimé qu'il devait prendre cette position, qui lui permettait d'ailleurs de critiquer la façon dont M. Macron s'était exprimé, mais qui aussi correspond sans doute à ce que considère de façon confuse son électorat.
Sur la politique intérieure toujours, je voudrais citer les propos tenus cette fois-ci sur X encore par l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui appelait à rompre avec, je cite, « les déclarations de façade et les condamnations sans effet pour dresser un constat clinique ». Des Européens devenus spectateurs impuissants, défenseurs béats d'institutions désormais totalement dépassées face à un monde régi par la loi du plus fort. C'est aussi cela le discours des réalistes politiques aujourd'hui. C'est une critique acerbe au fond, non pas tant du droit international, mais de l'impuissance. Elle est troublante, cela dit, dans la voix, dans la prise de parole d'un ancien Premier ministre français, Cyril Brett.
Elle me trouble effectivement et elle me trouble également par sa naïveté. Le rôle de défenseur du droit international,
naïf.
Comme si les Européens ne se signalaient que par leur faiblesse, leur attachement à la diplomatie, aux règles de droit international, aux organisations régionales, sont un levier dans le rapport de force avec les États-Unis. Les États-Unis veulent réduire les relations internationales à des relations bilatérales, d'ultra-puissant à ultra-faible. Les Européens ont une vision collective, collectiviste et multilatéraliste. Ils proposent donc un autre paradigme. Ce n'est pas souvent que les Européens ont la capacité d'être les seuls à défendre un paradigme des relations internationales. Non seulement ils seront fidèles à leurs valeurs, j'en suis absolument ravi, mais ils peuvent en plus utiliser ces instances multilatérales comme instances de pression sur les États-Unis, car on le sait bien, désolé d'invoquer encore un philosophe, Rousseau, le droit du plus fort n'est en vigueur que tant que le fort est véritablement plus fort. Viendra un moment de moindre puissance de la part de Donald Trump, ce sera peut-être assez rapidement avec les midterms de novembre, et ce sera de toute façon l'année prochaine avec le début de la campagne électorale.
Mais tout de même, Cyril Brett, sur les droits de douane, sur le numérique, sur le Groenland, on sent que ça se dessine également. Les Européens ne sont pas faibles dans leur rapport aux États-Unis ?
Ils font usage
de leur puissance ?
Ils sont moins tonitruants, ils sont moins médiatiques, mais ils tiennent sur l'essentiel. Le soutien à la souveraineté du Groenland est unanime parmi les Européens, ils ne flanchent pas sur le sujet. Et les instances européennes résistent tant aux desiderata et aux exigences de l'administration Trump concernant le numérique que Thierry Breton lui-même a été sanctionné par les autorités américaines. Le rapport de force est là, aux Européens de décider s'ils veulent lui donner un tour plus brutal, plus spectaculaire, plus tonitruant, plus débraillé aussi, qui est celui de Donald Trump, ou s'ils veulent garder leur mesure de notable des relations internationales, mais on peut créer des styles aussi en diplomatie.
Claude Blanche-Maison, vous êtes d'accord, j'oriente ma question à D5, sur le fait que les Européens ne sont pas nécessairement faibles dans cette séquence ?
Tout à fait. Et je n'en veux pour preuve que la haine que M. Trump porte à l'Union européenne. Il a eu des propos déterminants qui sont trop grossiers pour qu'on les rapporte ici. Mais grosso modo, il a dit que l'Union européenne avait été inventée pour embêter les États-Unis. Il a utilisé un autre terme. C'est faux, historiquement, puisque l'Union européenne a été portée sur les fonts baptismaux par les Américains, bien entendu. Et dans les années 50, les Américains souhaitaient qu'il se constitue une communauté européenne, qu'il fallait également aider l'Allemagne à avoir un cadre pour son réarmement et qu'ils ont accompagné tout à fait le mouvement. Aujourd'hui, il dit, tout ce que fait l'Union européenne, c'est pour embêter les États-Unis. Ça prouve que nous sommes puissants. Puisque nous ne sommes pas seulement du poil à gratter, en effet, nous avons une certaine forme de puissance, et je crois qu'on le verra aussi, et nous ne sommes pas les seuls. L'affaire du Venezuela n'est pas terminée, puisque le régime n'est pas renversé, reste à voir comment M. Trump va s'y prendre pour mettre la main sur le secteur pétrolier. Ce n'est pas tout à fait évident, et reste à savoir comment il va faire pour mettre la main sur le Groenland. Ce n'est pas tout à fait évident, parce que les Inuits, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 57 000.
Millions, 1 000.
Il souhaite justement 1 000. C'est pas beaucoup, alors on pourrait dire très très cyniquement, dans le fond, Trump pourrait les acheter, ça serait pas très cher. Mais les élites ne veulent pas être achetées, parce qu'ils veulent garder la perspective qu'ils ont actuellement, dans leur autonomie, de peut-être devenir un jour indépendant. Et c'est évidemment la carte que l'Europe et que le Danemark doit jouer, c'est nous sommes les protecteurs des Inuits. Si les Américains débarquent au Groenland, c'en est fini de la civilisation Inuit. C'est d'ailleurs Jean Mallory, le grand ethnologue français, qui le disait.
On va revenir sur le Groenland. Je voudrais d'abord vous faire entendre une voix, celle de la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques de l'ONU, Rosemary DiCarlo. Elle s'exprimait le 5 janvier dernier.
L'heure est grave. Nous nous réunissons après l'intervention militaire des États-Unis le 3 janvier en République bolivarienne du Venezuela. Dans les situations si confuses et complexes auxquelles nous sommes confrontés, il est important de s'en tenir aux principes. Le respect de la Charte des Nations Unies et de tous les autres cadres juridiques applicables afin de préserver la paix et la sécurité. Le respect des principes de souveraineté, d'indépendance politique et d'intégrité territoriale des États. L'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force. La primauté du droit doit prévaloir. Le droit international possède des outils pour traiter des questions telles que le trafic illicite de stupéfiants, les différends liés aux ressources et les préoccupations en matière de droits humains. C'est la voie que nous devons emprunter.
Lorsqu'on entend un discours comme celui-ci, Cyril Brett, on se demande aussi, dans le fond, que peut le droit international sans force exécutoire, sans puissance pour faire appliquer ses valeurs, ses principes, ses règles ?
Rien, la justice resterait lettre morte sans la force et la force reste injuste sans la justice. En revanche, il serait malvenu de réduire la force à la force militaire. Il existe de multiples leviers d'action pour faire appliquer les normes de droit de façon immédiate ou de façon différée. La négociation, naturellement, le lobbying, les sanctions, et on voit que les stratégies des sanctions ont des effets différés, discutables, insuffisants peut-être. Également la conduite du récit, puisque les relations internationales sont devenues une partie du récit médiatique de la vie quotidienne des opinions publiques. On l'a vu avec, par exemple, l'appel direct de Zelensky, vaincu militairement en 2022, mais vainqueur stratégiquement dans les opinions publiques.
Donc, les récits, c'est-à-dire faire de la communication à partir des relations internationales.
Exactement, inverser la façon de voir les choses, notamment développer des contre-récits, en dénonçant par exemple le caractère fantaisiste du narcoterrorisme imputé à Nicolas Maduro et en revenant à une appréciation sobre et exacte du fait que c'est un dictateur qui a volé son élection en 2024, mais c'est aussi le représentant légal du pays et qu'en aucun cas une opération militaire et un kidnapping ne sont justifiés. Donc ça, ne faisons pas comme si, encore une fois, les idéalistes défendaient le seul droit et les réalistes défendaient la seule force brutale des armes. Il y a 1 000 façons d'agir sur la scène internationale sans oublier évidemment les normes techniques, sans oublier également l'influence technologique. Et de très nombreux pays l'ont compris, au premier rang desquels les prédateurs que nous avons déjà mentionnés, la Russie, développe des instruments de lutte qui n'ont rien à voir avec la force militaire, même si nous sommes, à juste titre, obsédés par l'invasion de l'Ukraine.
Et puis ce droit international, par ailleurs, Claude Blanche-Maison, depuis 1945 au moins, il permet tout de même d'encadrer un tant soit peu les choses, sans que l'ONU ait recours à la force exécutoire pour lui permettre d'être appliquée.
Il permet d'encadrer les choses, mais malheureusement, il a connu quelques entorses. Et quelques entorses qui, effectivement, affaiblissent les avocats du droit international, pur, comme vous dites.
Auquel pensez-vous qui...
Par exemple, la deuxième guerre d'Irak. Il est clair que les Américains, qui n'avaient aucune preuve, ont décidé que l'Irak détenait des armes de destruction massive et ont décidé d'envahir l'Irak. Alors, la France, l'Allemagne et quelques pays ont dit non.
Le Kosovo aussi, en 1999. On parle toujours moins du Kosovo, comme si, au fond, cette intervention menée par l'OTAN contre l'avis officiel du Conseil de sécurité de l'ONU avait été menée en parfaite légalité.
Bien sûr, ça a été mené, en effet, sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, pour aider les populations. Et j'allais en venir à cela, c'est que on a instillé dans le droit de l'ONU l'idée d'une possibilité d'ingérence pour sauver les populations. Et c'est la fameuse thèse de Mario Betati qui était le droit d'ingérence lorsque les populations étaient martyrisées par leurs dirigeants ou lorsque des minorités étaient martyrisées par leurs dirigeants. Et c'est au nom du droit d'ingérence qu'on a lancé un certain nombre de choses, notamment en Libye également. Et en Libye, là, les Russes s'en sont mordus les doigts, mais ils avaient voté la résolution du Conseil de sécurité qui nous avait permis une intervention en Libye, pour naturellement sauver une partie de la population libyenne qui était menacée d'extermination. Donc il y a eu beaucoup d'entorses faites dans l'application du droit international, et je crois qu'il faut simplement maintenir que le droit international tel qu'il a été appliqué depuis la Deuxième Guerre mondiale a permis de limiter les conflits, pas de les éviter, mais de les limiter, d'en limiter la portée, et qu'il faut en effet peut-être le faire évoluer, bien entendu, pour tenir compte du rapport de force actuel, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, de façon à ce qu'il y ait un arbitre. Et cet arbitre, logiquement, devrait être le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est contesté par Donald Trump, ce qui est contesté par tous les pays qui usent aujourd'hui fréquemment du droit de veto.
Et puis on rappelle qu'au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, aujourd'hui, sur 5 pays, 3, hein, la Russie, la Chine, les États-Unis ne respectent plus désormais le droit international tel qu'on le conçoit depuis 1945 au moins. Cyril Brett, sur cette notion de droit d'ingérence, elle est tout de même troublante. Pourquoi intervenir pour destituer Maduro, l'enlever, le capturer? Pourquoi lui en particulier? Évidemment qu'il brisait son peuple, mais bien d'autres dictateurs aussi pourraient, selon cette morale-là, être capturés par les États-Unis.
Bon, alors rassurons-nous, de toute façon, Donald Trump et son entourage n'ont ni invoqué Mario Betati, ni le droit d'ingérence, ni la protection des populations. Revenons, vous avez raison, à la réalité politique de la situation. Tous les observateurs étrangers et tous les observateurs indépendants ont acté et documenté le fait que Nicolas Maduro n'avait pas réuni plus de 40% des voix aux dernières élections présidentielles par des fraudes massives. Les organisations internationales les plus neutres et les moins critiquables ont bien documenté que le sort réservé aux opposants était celui d'une répression, on peut le dire, extrêmement féroce de la part de Maduro. Est-ce pour autant qu'il faut violer de cette façon-là plusieurs normes internationales? La réponse est évidemment non. Je pense que l'administration Trump paiera à terme assez cher la façon dont elle ne se préoccupe que du court-termisme, du récit et de l'efficacité militaire de son opération.
Comme diplomate, Claude Blanche-Maison, vous rejoignez cette position dans le fond L'administration Trump payera un jour les pots cassés du non-respect du droit international, du court-termisme, de la tactique plutôt que de la stratégie en matière d'affaires politiques ?
Oui, d'autant plus que, en dehors de son discours général, en effet, dans l'application, et notamment du dernier problème qui est encore en cours sur le Venezuela, elle a fait beaucoup d'erreurs d'appréciation. Elle a estimé probablement qu'il suffisait de se saisir de monsieur et de madame Maduro et que pour le reste, on pourrait s'entendre avec ce qui restait du régime chaviste et que probablement la CIA était à l'œuvre depuis des mois pour convaincre la vice-présidente, pour convaincre probablement un certain nombre d'éléments militaires qu'en effet, ils n'auraient pas le choix, ils seraient contraints de s'entendre avec les Américains au risque d'avoir une intervention militaire massive. Mais l'intervention militaire massive n'est pas possible, tout simplement parce que Monsieur Trump a promis à sa base électorale, MAGA, qu'il ne le ferait pas. Donc il ne peut pas le faire. Et effectivement, du coup, il est obligé de faire des opérations chirurgicales qui peuvent marcher, mais qui peuvent aussi ne pas marcher. Et il est possible que le régime Chavez survive en donnant quelques bribes pétrolières à M. Trump, mais sans lui donner tout ce qu'il exige, c'est-à-dire le contrôle du Venezuela.
Je voudrais vous faire entendre, je voudrais vous lire tout simplement l'extrait d'une intervention qui a été développée sur X par une avocate spécialisée en conflits armés et droit international. Elle s'appelle Sarah Sialom et écrit, je cite, « Le droit international est souvent jugé à partir d'un critère qui n'est pas le sien, sa capacité à empêcher les crises. Cette approche est trompeuse car elle transpose au niveau international des attentes propres au droit interne alors que les deux systèmes reposent sur des logiques radicalement différentes. Dans ce contexte, la question n'est pas celle de la sanction immédiate mais celle de l'inaction. Les règles internationales sont respectées non parce qu'un État y serait moralement tenu, mais parce qu'elles structurent un environnement prévisible dont nous tirons bénéfice. La stabilité juridique réduit les coûts de transaction, limite les risques d'escalade et permet aux États de concentrer leurs ressources sur autre chose que la gestion permanente de conflits. » Fin de citation. Ce que j'aime dans cette vision des choses du droit international, au fond, c'est une certaine humilité de ce dont est capable le droit international et par ailleurs, son effet performatif. Au fond, la fonction première du droit international, c'est de limiter la casse, Cyril Brett.
Oui, c'est une approche modeste et déflationniste du droit international. Je retiens de cet excellent texte le fait qu'il intervient a posteriori et non pas a priori, il ne prévient pas les crises. Et je retiens également qu'il empêche l'épuisement, en fait, des puissances. C'est-à-dire que sans stabilisation d'une situation par le droit international, une puissance aussi grande soit-elle, doit être toujours sur le pont ou sur le champ de bataille. Et je reviens à ce qu'on évoquait au début. Trump ne va pas pouvoir, dans la durée, consommer autant de forces militaires, d'intelligence, de finances, médiatiques sur le Venezuela, car il a bien d'autres dossiers. Il a intérêt lui-même à stabiliser la situation. Quel meilleur stabilisateur que le droit international ? S'il récuse même l'idée de droit international, il se condamne à l'épuisement.
Sur cette vision-là, Claude Blanche-Maison, là aussi à partir de votre expérience de diplomate, d'ancien ambassadeur de France en Russie et en Inde, le droit international, c'est d'abord une somme de dispositifs, un outil pour circonscrire les crises, moins pour les prévenir que pour tenter de les encadrer ex poste ?
Tout à fait, pour modérer les évolutions vers des crises, et puis, comme le dit la citation de votre juriste, pour préserver la stabilité. Or, la stabilité, c'est quelque chose qui devrait intéresser M. Trump, parce qu'il n'y a pas d'investissement économique possible sans stabilité. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce que lui disent les grandes compagnies pétrolières. Vous êtes bien gentils de vouloir nous redonner le contrôle du pétrole au Venezuela, mais nous n'irons au Venezuela que s'il y a une stabilité politique évidente, c'est-à-dire en réalité un changement de régime. Et M. Trump va se trouver démenti par les propres forces économiques qu'il voulait défendre et qu'il voulait remettre en position de contrôler la partie essentielle, la seule partie vraiment riche du Venezuela. Et là, effectivement, ça se retourne contre lui, car les entreprises et les grandes comme les moyennes veulent essentiellement la stabilité. Sinon, elles se retiennent d'investir, elles se retiennent d'agir. Et je pense que ExxonMobil, aujourd'hui, aujourd'hui n'a aucune envie de se précipiter sur les gisements vénézuéliens, qui d'ailleurs sont tous obsolètes. Il faut des milliards d'investissements pour les remettre en marche. Eh bien, peut-être un jour, mais lorsque la stabilité politique sera assurée.
Cyril Brett.
Oui, on revient à une évidence libérale, celle de Benjamin Constant. Donald Trump a cru qu'il pouvait faire la guerre par le commerce. Si on veut faire du commerce, il faut qu'il n'y ait plus de guerre. Il faut que le doux commerce supplante les armes, et on en revient à l'évidence de la sécurité juridique dont ont besoin les investisseurs, de la stabilité politique dont ont besoin les opérateurs économiques, et de la sécurité des personnes et des biens dont toute société civile a besoin. Et donc on en revient tout simplement à l'idée de l'organisation juridique d'une communauté civile, économique et internationale.
Sur le Groenland, Claude Blanche-Maison, que peut l'Europe aujourd'hui ? Elle semble dénuée de force, elle ne semble pas avoir saisi tout à fait le concept de puissance, et dans le même temps, les grands discours sur le droit international ne semblent pas porter loin.
Oui, parce que c'est un sujet peut-être plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Comme vous le savez, les États-Unis ont pris le contrôle du Groenland pendant la Deuxième Guerre mondiale pour éviter que les nazis le prennent. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont proposé de rendre le Groenland en réalité à la Grande-Bretagne, qui a dit non, il y a le cousin roi du Danemark à qui ça appartient. Par conséquent, de façon très fair-play, les Britanniques ont dit il faut le rendre au Danemark. Et c'est pour ça que le Danemark a cette souveraineté sur le Groenland.
Il y a quand même un accord de défense entre...
Absolument, et il y a une base extrêmement importante, qui est une base notamment spatiale, une base de surveillance de tout le Grand Nord. Il n'y a pas énormément de militaires, mais technologiquement, c'est une base très importante, et l'accord dont vous parlez permettrait...
Qui date de 1951.
Permettrait évidemment, moyennant des négociations pas très difficiles, aux États-Unis d'ouvrir d'autres bases, c'est-à-dire d'accroître leur présence militaire au Groenland. C'est probablement ce qui va se passer d'ailleurs, et probablement après une négociation avec le Danemark. Le deuxième volet sur lequel quelque chose peut se passer assez rapidement, c'est le volet économique, puisque le Groenland actuellement a une certaine autonomie économique par rapport au Danemark. Eh bien, il va vouloir conclure des accords sur ses ressources naturelles, bien entendu, et des accords de développement.
Vous n'avez pas l'air très inquiet, on est moins dans la préparation d'un conflit ouvert, classique, dans les prémices d'une négociation.
En effet, je suis de ceux, évidemment peut-être pas très nombreux, mais qui ne croient pas que M. Trump va lancer ses navires et ses porte-avions contre le Groenland. Ça serait absurde, ça serait... une brèche considérable dans l'OTAN, puisque ça voudrait dire attaquer un pays de l'OTAN. Et la première ministre danoise l'a dit, ça serait la fin de tout. Ça serait en tout cas peut-être la fin de l'OTAN. En tout cas, ça serait pour... Alors qu'il est possible d'atteindre les objectifs que poursuit M. Trump par d'autres moyens. En maintenant le drapeau danois sur le Groenland, mais effectivement en prenant le contrôle sur le plan militaire et sur le plan économique.
Cyril Brett, c'est là on a peut-être la fusion entre droit et puissance que vous évoquiez un peu plus tôt.
Oui, je pense que les gesticulations militaires inquiétantes de l'administration Trump sont une entrée en négociation. Et il y a d'ailleurs peut-être à s'inquiéter beaucoup plus pour le Groenland d'une négociation réussie par l'administration Trump, en termes de concessions et en termes d'exploitation des ressources, hein, qui sont très importantes, notamment en terres rares, que sur le volet strictement diplomatique. Je pense que Donald Trump est tout sauf irrationnel, il calcule très bien ses coûts et ses bénéfices. Il voit très bien, ça, vous venez de le dire, que ses bénéfices sont extrêmement importants et surtout qu'il peut emporter la mise sans tirer une seule balle.
Mais sur l'Europe, alors, que faire une déclaration commune, est-ce que cela suffit? En invoquer le droit international, les règles de droit, est-ce que là encore, ce n'est pas un vœu pieux qu'on aura du mal à exprimer aujourd'hui collectivement, du moins d'une manière coordonnée?
C'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante. Je pense que le Danemark a aujourd'hui besoin de marques de solidarité qui excèdent les déclarations des chancelleries, des marques de solidarité symboliques. Après tout, l'administration Trump voyage beaucoup au Groenland. Pourquoi les chefs de l'État et les chefs de gouvernement européens ne se rendraient pas eux aussi dans l'hiver arctique? Pourquoi ne pas...
Emmanuel Macron était à Nuuk il y a encore quelques mois.
Hein. Voilà, pourquoi ne pas se relayer au Groenland Groenland comme on a pu se relayer à Kiev? Pourquoi ne pas associer aux grandes compétitions sportives, aux grandes compétitions culturelles, aux grands festivals culturels des représentants du Groenland? Pourquoi ne pas faire patrouiller, non pas l'armée, mais des gardes-côtes d'à peu près tous les pays de l'Union européenne autour du Groenland? Pourquoi ne pas mettre en valeur également la protection des minorités linguistiques, ethniques, culturelles du Groenland? Pourquoi ne pas organiser de très grandes expositions sur la culture du Groenland dans toutes les capitales européennes? Nous ne sommes pas démunis.
Merci de ce programme, de ce quasi-programme. Cyril Brett, expert à l'Institut Montaigne, spécialiste des questions de défense et de sécurité, et Claude Blanchemaison, ex-ambassadeur de France en Inde et en Russie, auteur du livre intitulé « Fragments au pluriel d'un parcours aventureux » que vous signez aux éditions Temporis. Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Questions du soir, et merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Diane Devancey, Antoine Héral, Stéphanie Villeneuve, Juliette Mouélic. À suivre après le journal, autre sujet, vaste question, notre modèle agricole peut-il encore garantir notre souveraineté alimentaire?
Vous écoutez France Culture.
Alors que cette nouvelle année sera marquée en France par les élections municipales, une série pour explorer des villes qui se pensent comme des contre-pouvoirs face aux États.
Julie Gacon.
Nous parlons de New York, dont le tout nouveau maire Zoran Mamdani se veut une sorte d'antithèse incarnée de Donald Trump, d'Istanbul, assiégé par le gouvernement turc, et de villes italiennes comme Rome, Bologne, Turin, des cités en résistance.
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le poète-rappeur Abdal Malik partage et commente les poèmes qui accompagnent sa vie.
Je m'appelle Abdal Malik. Je suis un poète, je suis un saltimbanque, je suis un rappeur, je suis un écrivain, je suis... Mais le lien de tout ça, c'est la poésie. Je pourrais dire je suis Abdal Malik.